Si vous êtes tellement passionné que parfois vous avez du mal à vous arrêter ou que vous vous engagez dans plein de projets et que vous finissez épuisé, cet épisode est peut-être pour vous. Bienvenue dans l'épisode 181 du podcast Mes trucs de prof. Je suis Émilie Lefattan, coach professionnelle et formatrice. J'accompagne les profs et les professionnels de la pédagogie à retrouver confiance en eux et à y voir plus clair dans leur métier, à retrouver de l'énergie et du sens au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne et on partage des clés concrètes pour pouvoir mieux vivre son métier, nourrir sa pratique et remettre du bien-être dans son quotidien de prof. Alors si tu as envie de prendre un temps pour toi, de souffler un peu et de réfléchir à ta façon de travailler ou à ta vie de prof, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de mon parcours et de mon rapport au travail qui m'avait épuisée parce que je n'avais pas identifié à temps certains changements dans ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre aspect important qui parlera sûrement à de nombreuses personnes. J'ai aussi été portée et piégée par ma motivation, par mon enthousiasme, mon envie de nouveauté, de progression. En fait, je suis en quelque sorte addict à l'apprentissage, à la créativité, à l'analyse, au développement, à la nouveauté. J'ai tout le temps envie d'apprendre et de faire de nouvelles choses et d'innover. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Donc, je dis oui à tout, je suis tout le temps partante, mais pas parce que je ne sais pas dire non, mais surtout parce que tout m'emballe et tout me tente. Je suis intrinsèquement motivée et prompte au changement. Alors aujourd'hui, je suis à mon compte et ce trait de ma personnalité est toujours présent. C'est à la fois mon plus gros moteur, ce qui me porte au quotidien et en même temps, si je n'y fais pas attention, eh ben je sais que ça peut aussi m'épuiser. La différence maintenant, c'est que j'ai développé une meilleure conscience de moi et ça me permet de profiter de mon fonctionnement et de ses côtés positifs sans non plus aller trop loin dans l'épuisement. Parfois, quand je dis aux gens que je ne suis plus prof, eh bien certains pensent que c'est parce que c'était trop difficile, que j'en ai eu marre de l'institution, que j'aimais plus ça, que j'étais plus motivée ou que c'était difficile en classe. Et en réalité, pas du tout. Enfin, moi, j'enseignais en REP+, et j'adorais ça. La dernière école où j'ai travaillé, elle était géniale, j'étais bien dans l'équipe. Et même si j'avais des élèves parfois difficiles, ben, j'aimais ce public. Et d'ailleurs, j'ai moi-même fait toute ma scolarité en éducation prioritaire, donc je n'ai aucun a priori sur ce milieu, bien au contraire. Mais ce n'est pas ça, d'ailleurs, dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais... Les gens, au contraire, qui me connaissaient, avec qui j'avais travaillé et qui apprenaient que je voulais quitter l'enseignement, avaient pour réaction la plus fréquente, c'était de dire « Ah, mais c'est dommage, ce sont toujours les plus motivés qui s'en vont. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent pour moi ou pour d'autres. Donc, quand j'ai pris la décision de quitter l'éducation nationale la première fois, c'était au moment de mon burn-out. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me former au coaching. Au départ, c'était pour faire complètement autre chose, mais au final, plus la formation avançait, plus je me disais mais qu'en fait, c'est exactement ce dont les profs ont besoin et ce dont j'aurais eu besoin pour prendre un peu de recul. Prendre du recul sur ce qui m'épuisait, sur ma façon de m'organiser, sur ma façon de travailler aussi, de m'impliquer et sur comment je pourrais m'économiser davantage. Donc les personnes qui s'épuisent et qui quittent parfois l'enseignement sont aussi parfois celles qui aiment profondément leur métier et qui étaient profondément motivées. Donc je ne peux pas agir sur le contexte d'exercice, sur toutes les injonctions qui pèsent sur les profs. Par contre, je suis convaincue qu'on peut changer notre rapport au travail, tirer profit aussi de notre mode de fonctionnement. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce profil de prof passionné, investi, mais qui s'épuise. Peut-être que vous aussi, vous vous lancez avec motivation et enthousiasme dans plein de projets. Peut-être que vous refaites le monde chaque année. Et ça, c'est votre moteur. Donc l'idée, ce n'est pas d'éteindre votre flamme, mais vraiment de voir comment ne pas vous brûler avec. Dans mon livre « Enseigner selon son profil », j'ai créé des archétypes de profs inspirés des archétypes de Jung. Donc il y a 12 archétypes qui ne sont pas des stéréotypes ou des clichés, ni des profils d'ailleurs, mais qui se manifestent tous en nous à certains moments. Et c'est vraiment un outil pour essayer de mieux se connaître et de mieux visualiser quel archétype se manifeste dans quelle situation. Et chaque archétype va avoir des caractéristiques significatives et aussi des points de vigilance. Et chez moi, dans ce que je suis en train de vous décrire de mes comportements, il y a trois archétypes qui se manifestent principalement. Ce sont l'archétype de la prof passionnée, l'archétype de la prof créative et l'archétype de la prof héroïne. La passionnée, c'est celle qui consacre tout son temps à ses élèves. La créative, c'est celle qui a toujours mille idées et qui veut tout essayer. Et la prof héroïne, c'est celle qui va vouloir relever tous les défis pour la réussite de ses élèves. Donc autant vous dire que ces trois-là, quand elles se mettent ensemble, eh bien c'est un cocktail explosif. Donc c'est là que ça devient intéressant, parce que au final, cette énergie, cette force incroyable, eh bien si elle n'est pas canalisée, elle finit par nous épuiser. Et moi, pendant longtemps, je n'écoutais que mes élans motivationnels, que ce qui me motivait, ce que j'avais envie de faire, sans tenir compte de mon état physique, de mon état mental, de mon état émotionnel. J'agissais sans introspection et sans recul. J'étais tout le temps dans l'analyse de ma pratique pour pouvoir avancer, faire plus, faire mieux, mais sans tenir compte de là où j'en étais, comment je me sentais, ce dont j'avais besoin. Donc si vous vous reconnaissez dans ce fonctionnement, c'est-à-dire motivé par tout, toujours partant ou partante, mais au risque de vous épuiser, eh bien je vais vous partager plusieurs pistes. Prenez ce qui résonne pour vous, prenez ce qui vous parle. Voilà, moi je vous partage ce qui me vient, ce que j'analyse, ce que j'ai compris, et vous me direz ce qui vous parle. La première chose dont je vais vous parler, c'est d'apprendre à se voir faire et de développer la conscience de soi. C'est-à-dire de pouvoir prendre des moments réguliers dans son quotidien pour se demander eh bien, où j'en suis, comment je me sens, quel est mon niveau d'énergie, quelles sont les émotions que je ressens, de quoi j'ai besoin. Il existe vraiment plein d'outils et de pratiques pour développer ça, et d'ailleurs je les propose dans mes accompagnements, mais déjà instaurer un petit rituel de check-in, ça peut tout, vraiment tout changer. Donc vraiment de se demander, de prendre le temps de se demander ce qu'on ressent, où on en est. Plus je suis consciente de mon état, plus je suis consciente de mes besoins, ben plus mieux je peux arbitrer et prendre des décisions qui me sont favorables. Je vous ai parlé dans plusieurs épisodes du podcast de la conscience de soi, donc je ne vais pas approfondir, mais je vous invite à écouter les épisodes 64, 148 et 167 que je vous mettrai dans le descriptif de l'épisode. La deuxième piste, c'est d'apprendre à prioriser. Alors oui, on dit souvent « il faut prioriser ». D'ailleurs, il y a souvent des personnes qui viennent se faire coacher en me disant « ben voilà, je viens parce que j'arrive pas à prioriser ». Mais concrètement, comment on fait ? Prioriser, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est être clair sur ce qui est important et pouvoir savoir aussi pour qui c'est important. Et est-ce que c'est vraiment important pour soi ? C'est aussi savoir distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Et ça, c'est pas forcément simple, parce que l'urgence extérieure, elle a tendance parfois à nous faire oublier nos propres priorités, à nous faire oublier ce qui est vraiment important ou ce qui est vraiment urgent pour nous. Et parfois, on fait passer ce qui est urgent pour d'autres à la place de ce qui est urgent pour nous. Et tout ce qui est urgent n'est pas forcément important, tout ce qui est important n'est pas forcément urgent. Et donc, on a besoin de faire la lumière sur ces aspects-là. Prioriser, ça va aussi demander de pouvoir résister, à la tentation de dire oui, de pouvoir aussi résister à l'immédiateté. C'est pas parce qu'on me demande quelque chose maintenant que je dois le faire tout de suite. C'est pas parce qu'on me demande, qu'on me propose quelque chose d'hyper motivant que je dois le faire maintenant, ou que je dois m'en emparer maintenant. Donc, tout ce qui concerne le fait de réinterroger l'urgence, ça, je vous en parlais dans l'épisode 72, que vraiment, je vous invite à aller écouter si vous avez tendance à vous laisser happer par les demandes extérieures et les urgences des autres. Ça, c'est un point. Et puis, si vous avez besoin de clarifier pour vous ce qui est important pour pouvoir apprendre à mieux prioriser, ben, déjà, prenez ce temps régulier de pouvoir vous demander... En ce moment-là, c'est quoi ma priorité? Qu'est-ce qui est important? Et quand vous avez quelque chose d'urgent, de pouvoir le questionner. La troisième piste, c'est de se connaître, de connaître son mode de fonctionnement et de connaître ses limites. La conscience de soi, en fait, elle est étroitement liée à la connaissance de soi. Si je connais mes forces, si je connais mes compétences, si je connais mes besoins physiologiques, si je sais reconnaître mes signes de fatigue ou comment je réagis sous stress, eh bien, je suis plus à même de m'écouter et d'ajuster. Une astuce concrète, c'est vraiment de réussir à définir en amont d'une activité, en amont d'une séance, en amont d'un temps de travail, de pouvoir définir des limites claires. Ça peut être un temps maximum, ça peut être un nombre de projets en parallèle, ça peut être des critères de réussite pour chaque tâche, mais en fait, c'est le fait de savoir à l'avance où est-ce que je décide de m'arrêter ou quand est-ce que je vais m'arrêter. L'année dernière, j'ai accompagné une prof qui s'engageait dans trop de projets en même temps et qui finissait par être débordée par les projets qu'elle avait elle-même initiés. Et en coaching, un jour, elle a conclu en fait, qu'elle ne pouvait objectivement pas mener plus de 3 gros projets, ce qu'elle appelait, elle, gros projets en parallèle. Donc ça, elle l'a défini en fonction de sa discipline, le nombre de classes dans lesquelles elle enseigne, de son contexte de vie personnelle. Donc pour elle, c'était 3 à ce moment-là, et ça dépend de ce qu'elle entend par gros projet. Mais en tout cas, le fait d'avoir défini ça, c'est devenu son critère d'arbitrage. Quand elle se voyait faire, qu'elle se voyait commencer à se lancer dans un nouveau projet ou avoir envie de dire oui, elle se rappelait qu'elle s'était dit pas plus de 3 gros projets en ce moment. J'ai ça, ok, donc celui-là je diffère ou alors j'en enlève un. Ça lui permettait de prendre des décisions de façon un peu plus claire avec elle-même. Quatrième point, savoir dire oui. Et pas seulement savoir dire non. Vous vous attendiez peut-être à ce que je vous dise qu'il faut apprendre à dire non, mais en fait, je vais prendre le problème à l'envers. Il s'agit surtout d'apprendre à savoir quand est-ce qu'on dit oui. Parce que dire non, alors parfois c'est nécessaire et c'est utile d'apprendre à le faire pour les personnes qui ont du mal à s'affirmer, qui n'osent pas dire non. Mais là, je suis plutôt en train de vous parler d'autre chose, je suis plutôt en train de vous parler de « je n'arrive pas à dire non parce que j'ai trop envie de dire oui tout le temps ». Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dire non, c'est aussi dire oui. C'est dire oui à autre chose ou dire oui à un projet en cours et qu'on ne pourra pas mener à bien jusqu'au bout si on dit oui à un nouveau projet. C'est parfois dire oui à un temps de qualité avec ses proches ou à du repos ou à des moments de farniente ou de la lecture. L'idée, c'est de se demander à quoi j'ai envie, besoin de dire oui en ce moment. Et donc, quand je dis non à cette chose-là, c'est pas forcément un non définitif, c'est peut-être un non pour le moment et un oui différé. Et c'est important aussi de se le dire, que dire non, c'est pas toujours un renoncement, c'est parfois juste un oui différé. Ok, ça me plaît, mais je le fais pas tout de suite, je le ferai dans quelques semaines ou dans l'année prochaine, etc. La cinquième piste, c'est d'avoir de la visibilité à court, moyen et long terme. Souvent, on dit oui à quelque chose de super emballant et on ne voit pas que l'échéance de ce super projet auquel on est en train de dire oui va arriver en même temps qu'un autre projet auquel on a déjà dit oui précédemment. Et le résultat, c'est de la surcharge. C'est que quand les deux échéances arrivent, on se dit « Oh là là, j'avais pas prévu, j'avais pas anticipé que les deux choses allaient se terminer en même temps ». Et là, on se dit « Ben voilà, je dis toujours oui et j'aurais pas dû dire oui, je me suis engagée dans trop de choses, etc. » Donc, moi, ça m'arrive encore très régulièrement. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir avoir une vision globale de son calendrier à court, moyen et long terme, et parce que ça va permettre d'anticiper et de ne pas se laisser surprendre. Donc, quand on dit oui à un projet, quand on dit oui à une nouvelle idée, quand on se lance dans quelque chose, ce qui est bien, c'est de pouvoir aussi regarder un peu plus large et de se dire combien de temps ça demande en amont, combien de temps va durer cette chose-là, et qu'est-ce que j'ai d'autre en cours ou d'annoncer qui risquerait de court-circuiter ça, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro. Et ça, ça va vous aider aussi à pouvoir mieux arbitrer. Là, c'était plutôt pour les projets à un peu plus long terme. Mais parfois, la difficulté, c'est de pouvoir aussi s'arrêter quand on est sur une tâche qui nous porte ou qui nous plaît. Donc, le sixième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait de faire attention à l'effet de satisfaction. Là, c'est vraiment un piège dans lequel je tombe encore régulièrement, c'est la satisfaction de cocher une tâche dans ma liste de tâches. C'est tellement agréable, c'est tellement satisfaisant que j'ai tendance à continuer. Je commence un nouveau truc, puis un autre, et au final, je dépasse mes limites ou je dépasse le temps prévu, etc. C'est-à-dire que j'ai fait une tâche, je suis hyper fière et contente et satisfaite de l'avoir terminée, et plutôt que de m'arrêter là, eh ben, je me dis, ah, j'ai encore envie de ressentir ça. Et donc, je commence une nouvelle tâche que je vais pouvoir finir. Et je finis par empiéter sur du temps de repos, du temps de lecture, des moments personnels, etc. Dans ces cas-là, ce qui m'aide, c'est de définir une limite avant de commencer, de me dire, je fais ça et je m'arrête à telle heure, ou je m'arrête quand j'ai ça, et de prévoir aussi ce que je fais après. Parce que quand on m'attend, quand j'ai un engagement derrière, ben, en général, je sais m'arrêter. Donc, ce qui peut vous aider, ça peut être aussi de demander à quelqu'un de vous aider à vous arrêter ou de caler un rendez-vous qui vous oblige à vous arrêter, etc. Enfin, le dernier point, c'est de savoir comment gagner du temps et arrêter d'en perdre. Donc, c'est vraiment une dernière piste, c'est d'aller identifier dans ce que vous avez déjà vécu ce qui vous fait perdre du temps régulièrement et ce qui vous fait en gagner. Là, on est toujours dans de la connaissance de soi. Donc, essayez de regarder comment vous fonctionnez quand vous êtes efficace. Analysez vos expériences et essayez d'optimiser du coup vos méthodes de travail en fonction de ce que vous savez de vous, de ce que vous savez qui vous est utile. Et puis, ce qui peut vous aider aussi à gagner du temps et arrêter d'en perdre, c'est d'adopter un état d'esprit minimaliste. Et ça peut vraiment être une clé assez précieuse. J'y ai consacré tout l'épisode 130 qui s'appelle « Le minimalisme appliqué à ta vie de prof ». Donc vraiment, je vous invite à aller l'écouter pour y piocher les pistes dont vous avez besoin. Voilà, je m'arrête ici pour les pistes à évoquer. J'espère que si vous vous êtes reconnu dans cet épisode, vous repartez avec des idées pour apprivoiser votre énergie sans l'épuiser. Et si vous avez envie d'approfondir le sujet et d'avancer dans votre situation personnelle, eh bien ce sont des choses qu'on peut tout à fait explorer en coaching. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Mes trucs de prof. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez découvrir mes deux livres, Gestion de classe, mode d'emploi et Enseigner selon son profil. Celui-ci est un guide pour explorer la connaissance de soi en tant que prof avec des apports théoriques clairs, des expériences concrètes et des exercices introspectifs. Et si vous sentez que c'est le moment de vous faire accompagner, je propose aussi des coachings personnalisés. Rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/contact. Vous pouvez également recevoir chaque mois un concentré d'idées, de réflexions et de compléments dans ma newsletter. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Et tous les épisodes du podcast sont disponibles sur mestrucsdeprof.fr ou sur votre application de podcast préférée. Et si le podcast vous plaît, pensez à lui attribuer quelques étoiles et pourquoi pas un petit mot. Et surtout, partagez l'épisode, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire connaître mon travail à d'autres. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.